Avant la pandémie, l'économie de la culture en France dégageait 44 milliards d'euros avec des branches florissantes, audiovisuel, spectacle vivant, jeux vidéo, patrimoine et des secteurs en souffrance comme la presse. En annonçant la prolongation des droits des intermittents et l'obligation pour les plateformes Netflix, Disney, Amazon d'investir dans la création française, le gouvernement a rassuré. Mais il reste beaucoup d'inconnus. De l'art de financer la culture, entendez-vous l'écho par Tiffaine de Rocchini du lundi au vendredi à 14h sur France Culture et sur franceculture.fr.
À midi sur France Culture, vous retrouverez La Grande Table, animée par Olivia Gesbert. Mais tout de suite, il est temps de retrouver Florian Delorme pour son émission Culture Monde.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine d'actualité internationale que vous retrouvez toute la semaine sur France Culture, une émission ce matin préparée par Bertie Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Loridon, Lucas Lazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Dalia. Deuxième semaine de déconfinement pour Culture Monde, des nouvelles séries consacrées à la pandémie de coronavirus et à ses conséquences. Après avoir parlé la semaine dernière de ses conséquences dans les relations internationales, on va regarder ce matin ses conséquences, et toute cette semaine, ses conséquences économiques, politiques, sociales, à l'intérieur de plusieurs pays. On parlera de la Russie, du Brésil, de l'Inde, mais pour commencer, place au pays qui compte le plus de victimes, les États-Unis.
Based on the latest data, our team of experts now agrees that we can begin the next.
En se fondant sur les dernières données disponibles, notre équipe d'experts déclare que l'on peut attaquer le prochain front de cette guerre que nous menons, front que nous appelons faire redémarrer l'Amérique, et c'est ce que nous faisons. Nous rouvrons notre pays. Et nous devons le faire. L'Amérique et les Américains veulent sortir du confinement. Comme je l'ai déjà dit, le confinement n'est pas une solution durable sur le long terme. Pour protéger la santé de nos citoyens, nous devons aussi protéger la santé et le fonctionnement de notre économie. Sur une longue échéance, on ne peut faire l'un sans l'autre.
Donald Trump, le 16 avril dernier, après avoir nié l'importance du coronavirus, donné des conseils sanitaires un peu absurdes pour s'en prémunir, accusé la Chine d'être seule responsable de ce désastre, le président américain doit faire face à une réalité. Son pays est le plus durement touché par la pandémie, près de 90 000 décès. Au-delà du bilan humain, la pandémie met au jour les inégalités qui ravagent le pays dans l'accès aux soins, dans les facteurs de comorbidité comme le diabète ou l'obésité pour lesquels jouaient déjà à plein les discriminations raciales. Et ces inégalités devraient encore s'aggraver compte tenu de l'état de l'économie. En effet, les conséquences du confinement sont colossales, avec plus de 20 millions d'emplois détruits pour le seul mois d'avril et un chômage qui s'envole à 14,7% contre 3,5% en février, soit son plus haut niveau depuis juin 1940. Alors comment Donald Trump pourra-t-il sauver la première économie mondiale? Jusqu'où ira la crise économique et sociale? Quelles conséquences politiques aussi, alors que le président cherche à se faire réélire? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Christine Zumello. Bonjour Christine Zumello.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeure de civilisation et politique américaine à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et vous êtes une spécialiste de l'histoire économique des États-Unis. On en aura bien besoin. Un historien également avec nous, Romain Huret. Bonjour Romain Huret.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin, directeur d'études à l'EHESS, un spécialiste des inégalités et de la pauvreté aux États-Unis. Et là aussi, on en aura tristement besoin. Donald Trump est particulièrement pressé de relancer la machine économique. On l'a entendu, l'extrait que vous venez d'entendre, c'était le 16 avril, donc c'était déjà il y a plus d'un mois. Il poussait déjà à la reprise du travail alors que la situation sanitaire était encore très préoccupante. Il se trouve qu'il y a encore beaucoup de divergences entre le président et ses conseillers, notamment son conseiller à la santé à propos de la rouverture des écoles, qui est voulue par Trump, mais qui est déconseillée par son expert en santé publique. Il y a quelque chose qui est très clair quand on regarde le comportement du président américain ces dernières semaines, c'est qu'il a fait son choix. Economy first et la santé des Américains après, Christine Zumello.
Oui, absolument. C'est vraiment alors cette crise planétaire qui touche les États-Unis, entre autres, mais effectivement les États-Unis très, très, très durement. C'est une crise qui, d'une certaine manière, permet de dévoiler des choses qui existaient déjà, qui sont très présentes aux États-Unis depuis très longtemps. Donc il y a des éléments longs. Et puis elle met en valeur des difficultés extrêmement importantes qui, là, surgissent de façon tout à fait criante. Alors, il y a trois mots-clés, je pense, qui reviennent. Le mantra de Donald Trump qui est great, et donc là toutes les entreprises qu'il a, y compris du point de vue économique, passent par cette idée de remettre au premier plan la grandeur des États-Unis, et la grandeur des États-Unis selon lui est assise sur la grandeur, sur la puissance économique. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il essaye de répéter à l'envi tous les jours. Et il y a deux autres mots qui sont un peu en filigrane et qui posent problème, c'est Care et Heroes. Donc c'est les deux grandes. La première, une loi qui a été adoptée par le Congrès début mars pour essayer de relancer la machine économique et donc de fonder les aides sur le soin. Et ça n'est pas suffisant. Voilà, la machine économique est vraiment en panne et a besoin de bien plus que des petites mesures. Donc on est passé à un niveau supérieur qui est celui de Heroes, donc un projet de loi là qui est à l'étude, qui a passé la Chambre et qui essaye d'avancer vers le Sénat. Donc il est vraiment dans une situation où il est obligé, en fait, et on voit le tissu très élimé, très abîmé, les conditions sociales, sanitaires, précarité, la volatilité de la situation économique aux États-Unis, qui n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui là va sans doute prendre une ampleur. Là, vous rappeliez 20 millions de chômeurs nouveaux, et donc qui va sans doute prendre des proportions encore encore supérieures. Donc on est aussi dans l'emphase par rapport à des marqueurs historiques qui semblent dépasser tous les jours.
On reviendra évidemment sur les mesures économiques qui ont été prises et celles qui peut-être pourraient être décidées dans les semaines qui viennent. Romain Huret, vous avez été étonné de cette manière de Trump de mettre au premier plan l'économie, où au fond c'est tout à fait dans la lignée de ce qu'on voit depuis plus de 3 ans maintenant.
Non, pas étonné. Je pense que son choix est tout à fait rationnel, même s'il peut sembler extrêmement irrationnel et fantasque, hein, vu d'Europe et vu des États-Unis. Mais il y a une forte continuité, hein, et on a vu au cours des dernières années que bien souvent les crises majeures aux États-Unis avaient tendance à renforcer des points de vue, des idéologies de manière extrêmement forte et parfois en décalage avec l'opinion publique et avec la réaction des Américains. On l'avait vu au moment de Katrina, où la réaction de Bush avait semblé assez surprenante, puisqu'il avait donné la priorité aux questions de sécurité, hein, au détriment de la protection des habitants de la Nouvelle-Orléans. Là, de la même manière, hein, Trump donne très clairement la priorité à l'économie au détriment des enjeux sanitaires. Et je crois que ceci n'est compréhensible que si on se replace dans l'idéologie de Bush il y a quelques années et de Trump aujourd'hui.
C'est-à-dire
que le comportement est cohérent. Trump a toujours défendu l'économie en priorité, a été élu pour relancer l'économie. C'est son principal élément favorable de son bilan au bout de 3 années passées à la Maison-Blanche. Et donc, sans surprise, hein, c'est son seul logiciel, donc il le remet en route, même si cela peut apparaître en décalage complet par rapport à la situation concrète des États-Unis et à ce drame que le pays est en train de vivre.
Mais le logiciel sécuritaire de Trump était aussi très important. Pourtant, là, il passe un peu au second plan, derrière l'économie, justement.
Oui, mais je pense que les deux allaient de pair, hein. Les deux vont ensemble, hein, que ça soit la sécurité ou l'économie, les deux fonctionnent ensemble, hein. Alors là, il donne la priorité, là, il met un éclairage particulier. Je crois que l'approche de la campagne est un élément déterminant, hein. Comme je le disais, son bilan économique est le seul bilan dont il pouvait jusqu'alors se faire valoir. Au moment de la campagne, et là, il est en train de perdre le peu de crédit qui lui restait dans le pays.
On va revenir évidemment, hein, Romain Huret, sur les conséquences politiques de tout cela et sur l'élection du mois de novembre prochain. Mais d'abord, Christine Zumello, interrogeons-nous sur les perspectives économiques du pays et regardons jusqu'où est-ce qu'on peut dresser des comparaisons, parce qu'il y a évidemment un peu partout dans la presse l'idée selon laquelle la crise que l'on va vivre aux États-Unis ressemble beaucoup à celle qui a été vécue dans les années 30. Et c'est vrai que quand on regarde un peu, d'abord les perspectives de recul de croissance, on est à peu près de l'ordre de je sais plus exactement, 4,3% je crois pour le premier trimestre selon les estimations, et ça risque de continuer. Il y a eu un certain nombre de chiffres qui ont été publiés récemment. On a un chômage qui est quasiment à 15%, et là effectivement, on est à peu près dans ce qu'on pouvait retrouver dans les années 30. Et en même temps, il y a certaines voix du côté des États-Unis qui rejettent l'idée selon laquelle on pourrait faire un parallèle entre la situation actuelle et cette dépression des années 30. Il y avait par exemple hier le patron de la Banque centrale, la Fed, Jerome Powell, qui était interrogé sur CBS, et lui, il disait que la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle des années 30. On a aujourd'hui des banques qui sont solides, on a une économie florissante, on a eu, disait-il, une réaction appropriée. Je reprends en tout cas son argumentaire. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Christine Zumel, que la situation économique n'a rien à voir avec celle des années 30 et que non, la chute ne sera pas aussi terrible. En tout cas, les États-Unis se remettront plus vite que ce qu'on peut le penser.
Alors, je crois qu'il faut être vraiment extrêmement prudent avec des prévisions aujourd'hui. Pas d'une part parce qu'on est vraiment encore dans l'œil du cyclone, donc je crois qu'il faut vraiment être très prudent. Je crois qu'il y a quelque chose de très important aussi à prendre en compte, c'est qu'évidemment on a deux leaders ici, Trump peut-être avec des guillemets d'ailleurs en utilisant le terme de leader, et Franklin Roosevelt qui sont extrêmement différents. Trump se raccroche effectivement à l'économie parce que il le dit lui-même très très clairement, je ne suis pas un homme politique. Voilà, je ne fais pas partie du sérail politique, je ne fais pas partie des coteries de Washington, et c'est aussi un des éléments forts sur lesquels il a été élu. Donc n'étant pas effectivement un homme politique, il se réclame donc du business, c'est vraiment un élément auquel il se réfère tout le temps. Effectivement, sa seule arme, et aujourd'hui c'est sa très très grande difficulté, c'est de faire en sorte que l'économie aille mieux. Donc effectivement, je crois qu'il y a des signes extrêmement difficile à la fois à mesurer dans leur ampleur aujourd'hui sur la situation économique et surtout sur son évolution. Voilà, je crois que là on fait des constats aujourd'hui, le fait au jour J, mais c'est très difficile de savoir dans quelle mesure ça va empirer. Je crois qu'il y a des éléments sous-jacents qui sont très importants du point de vue individuel aux États-Unis à remettre en avant, et c'est en particulier, alors c'est peut-être moins connu en France, mais c'est l'importance, bon, les États-Unis c'est une économie de la dette, hein, en fait, qu'elle soit la dette de l'État, mais aussi la dette des individus. Donc c'est une économie qui fonctionne à crédit. Tous les Américains sont endettés. C'est devenu quelque chose qui est complètement encastré dans le mode de vie. Bon, c'est une société de consommation, et la consommation, elle est basée sur le crédit. Donc à partir du moment où la consommation s'arrête ou est quasiment arrêtée, ce qui est le cas aujourd'hui, où un grand nombre d'Américains ont perdu leur emploi, donc se sont retrouvés devant des difficultés à rembourser leurs dettes, et ça a des conséquences sociales absolument dramatiques. À tel point, pas rentrer particulièrement dans des éléments très techniques, mais pour donner un exemple, toutes les aides individuelles qui ont été accordées par l'État américain, fédéral ou les États aux individus, on craint fortement qu'elles soient siphonnées en fait par des sociétés de recouvrement de dettes, par exemple, qui ont recours à des harcèlements divers pour faire en sorte que les Américains remboursent leurs prêts hypothécaires, leurs prêts à la consommation, le prêt qu'ils ont utilisé pour acheter une voiture.
Mais dans quelle proportion ? Parce que, pardon, Christine Zumelo, oui. on va venir vraiment précisément en mesure, mais j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans le plan de 2200 milliards de dollars qui a été déjà promulgué par Donald Trump, et il y a là-dedans 350 milliards de dollars qui est en réalité un plan de distribution de chèques aux Américains. Vous nous dites qu'une partie de ce plan-là, une partie de ces 350 milliards vont être siphonnés.
Alors, en tout cas, il y a une grande crainte. Voilà, c'est la grande crainte aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous dire exactement quelle proportion n'atteindra pas son but, mais la crainte majeure est celle-là, c'est-à-dire que les aides n'arrivent pas, in fine, aux Américains, aux individus qu'elles sont censées atteindre. Donc, évidemment, ça, c'est un élément en année électorale, puisqu'on est dans une campagne électorale qui est largement commencée. C'est quelque chose qui peut avoir des effets extrêmement dramatiques pour Trump et pour Biden, le candidat démocrate.
Romain Huret, je vous laisse rebondir, poursuivre, et puis peut-être je voudrais vous entendre, vous êtes historien, sur les limites de cette comparaison entre la crise économique et sociale qui vient et celle traversée par le pays dans les années 30.
Je crois qu'il faut, d'une part, il faut être extrêmement prudent sur la reprise dans les différents pays. On vit une situation totalement inédite. Hein. L'économie ne s'est jamais arrêtée comme ça pendant 2 mois dans le monde entier. Donc faire des prévisions nécessite une très très grande prudence hein, sur ce qui va se passer, sur la reprise de la consommation, et on le voit en France également aux États-Unis. Moi, peut-être ce qui est à mon avis important, je crois, c'est l'état sanitaire de la population n'est pas le même aujourd'hui que dans les années 20, et c'est un point sur lequel j'insiste souvent. Les États-Unis, avant le coronavirus, connaissaient déjà une crise sanitaire majeure hein, avec la crise des opiacés, qui a dévasté une grande partie des États de l'intérieur des États-Unis au cours des 15 dernières années. Et ça, c'est à mon avis un facteur extrêmement intéressant et qui différencie les deux périodes. Hein. On a déjà de très très grandes fragilités sanitaires avec un nombre de suicides et de morts, de désespoir, hein, comme deux économistes l'ont appelé, à savoir des gens qui préfèrent mourir hein, plutôt que ou se droguer jusqu'à en mourir, plutôt que de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Et ce point-là, à mon avis, est une très très grande différence. C'est-à-dire qu'il là, il y a un risque majeur, je pense, de cumul entre les deux épidémies, puisque une fois que l'épidémie de coronavirus sera terminée, on risque d'avoir de plus en plus de gens en situation de désespoir et qui risquent de renforcer hein, ce nombre de morts du désespoir. Et donc là, on a un état sanitaire de la population américaine d'une très très grande fragilité, et je pense que c'est un des facteurs, sans doute l'un des plus intéressants dans les mois à venir pour les États-Unis.
D'ailleurs, Romain Huret, vous avez signé un papier dans Libération, justement, dans lequel vous revenez sur cette fameuse crise des opiacés. On avait eu l'occasion, Romain Huret, d'en parler ici à ce même micro, avec ces laboratoires pharmaceutiques qui ont poussé largement à la consommation de médicaments qui contenaient des opioïdes et qui ont fait vraiment des ravages aux États-Unis. Si on regarde justement un peu plus près et qu'on s'intéresse à cette comparaison entre la crise de la Covid et celle des opiacés, jusqu'où est-ce que cette comparaison fonctionne? Je veux dire, les populations qui ont été les plus touchées par les opiacés, est-ce que au fond on retrouve aujourd'hui les mêmes s'agissant de la Covid-19, où on a quand même des profils, des géographies différentes, des sociologies différentes?
Des géographies et des profils différents. Il y a peut-être un facteur commun qui est intéressant aussi, c'est la prédominance des hommes. Dans les deux cas, les hommes, pour des raisons qui sont, pour la Covid, des raisons qui sont inexplicables pour l'instant, les hommes meurent davantage. Et la crise des opiacés avait été une crise aussi principalement des hommes blancs, ruraux pour l'essentiel, qui souffraient extrêmement hein, de conditions de précarité, qui donc avaient recours à des substances qui en a conduit beaucoup vers la mort. En revanche, la Covid hein, touche pour l'instant davantage les populations urbaines, et New York ou la Nouvelle-Orléans sont des épicentres hein, de l'épidémie aujourd'hui, et des populations afro-américaines. Alors que jusqu'alors, même si les choses changeaient un petit peu au cours des dernières années, la population afro-américaine avait été moins touchée par la crise des opiacés, même si les chiffres remonte depuis 1 ou 2 ans. Donc on a des géographies et des profils un petit peu différents, mais comme je disais, le risque, c'est l'effet boule de neige, hein, c'est que cette crise qui plus urbaine pour l'instant, plus qui touche davantage les populations afro-américaines, s'étendent vers l'intérieur du territoire sous d'autres formes, que ce soit la Covid ou que ce soit le désespoir, puisque on a parlé de 20 millions de personnes au chômage et sans doute des millions qui n'ont plus d'assurance santé ou de perspectives d'avenir. Donc on a vraiment un risque majeur, je pense, de catastrophe sanitaire aux États-Unis.
On a une idée justement, et je reviens ensuite sur les questions économiques, Christine Zumelo, mais je voudrais poursuivre un tout petit peu sur cette dimension sociale. On a une idée de ce nombre de personnes qui aujourd'hui n'ont plus du coup la possibilité de se faire soigner, parce que quand ils ont perdu leur emploi, ils ont également perdu leur assurance maladie. Ça, c'est le premier volet de la question, Romain Huret. Le deuxième, c'est comment ça se passe très concrètement quand on a perdu justement son assurance maladie? Comment on est pris en charge?
Pour répondre à la première question, je crois que c'est un point qui est majeur et qui est une grande différence avec la France. Votre assurance santé, votre mutuelle dépend très fortement de votre
emploi.
De votre emploi. Et là, quand vous le perdez, on a vu beaucoup de reportages hein, de gens qui du jour au lendemain ont perdu leur emploi et donc se retrouvent dans des situations dramatiques et qui doivent faire face à la charité publique, qui doivent faire face aux programmes d'urgence. Hein. Christine Zumelo a évoqué les programmes qui sont en train d'être mis en place, mais on sait très bien que ces programmes sont difficiles à mettre en œuvre, que les gens n'y vont pas forcément, qui sont pas de bonne qualité, et donc les populations qui pour beaucoup n'étaient pas forcément des populations vulnérables sont en train de le devenir et se retrouvent dans des situations de grande précarité sanitaire et médicale, et il faut pas oublier leur famille avec, puisque la feuille d'emploi du père souvent ou de la mère dépendait la protection médicale des enfants, donc à nouveau effet boule de neige, c'est-à-dire que le système américain qui est très centré, et Christine Zumulon en reparlera, sur la primauté de l'emploi qui est un gage de réussite aux États-Unis, une fois que l'emploi disparaît, c'est l'ensemble des protections et des digues qui s'effondrent, sachant que l'État ne joue pas du tout le même rôle qu'en France.
J'ai lu un chiffre là en préparant cette émission, Romain Huret, l'Economic Policy Institute évoque 12,7 millions de personnes qui ont perdu leur assurance maladie, qui étaient associées à leur emploi. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que des dizaines de milliers d'Américains meurent précisément parce qu'ils n'ont pas ils n'ont plus d'assurance maladie. C'est ça, concrètement.
Meurent ou ne se fassent pas soigner. Et donc, non seulement il y aura les ravages de la Covid, mais on imagine aussi toutes les autres pathologies qui vont s'aggraver. Les problèmes dentaires, les problèmes de mal de dos, enfin, tous les difficultés bénignes à des choses beaucoup plus graves. On voit très, très bien les conséquences pour une population de l'absence de prise en charge. Je faisais dans l'article pour Libération, je faisais une comparaison, alors même si les situations sont très différentes. Il faut pas oublier que dans les années 70, la chute de l'URSS avait été observée bien avant la chute finale par des indicateurs et sociaux et médicaux qui étaient catastrophiques. Des démographes avaient bien souligné le fait que l'un des premiers indicateurs, l'un des signes avant-coureurs de l'effondrement avait été l'augmentation du nombre de morts, des pathologies, de l'alcoolisme, etc. Là, aux États-Unis, on a des chiffres sanitaires qui sont extrêmement inquiétants et qui devraient vraiment inquiéter, je crois, le président Trump.
On y reviendra demain, ce sera notre sujet demain. Christine Zumelo, aidez-nous à comprendre ce qui a été mis en place s'agissant des mesures économiques pour affronter cette crise de la Covid. Je le disais tout à l'heure, 2200 milliards de dollars. Je crois qu'il y a un deuxième plan qui s'est rajouté fin avril et qu'on en a peut-être un encore en préparation. C'est celui que vous évoquiez tout à l'heure avec cette loi dite la loi pour les héros. D'abord, sur ce qui a déjà été pris, est-ce que vous pouvez nous dire à grands traits les mesures, les aides qui ont été mises sur place, est-ce qu'elles sont de nature à éviter la catastrophe? Et on verra pour ce qui est à venir ensuite. Christine Zumelo. D'abord, on parle du plan le plus important de l'histoire des États-Unis, c'est ça?
Oui, alors je voudrais peut-être, parce que c'est tout à fait lié à votre question, revenir sur un point très très important que souligne Romain Huret, c'est effectivement cette espèce de parallèle entre la crise des opiacés et la crise de la Covid, la crise très très raciste, crise sanitaire actuelle, parce qu'en fait dans les deux cas, je crois qu'on peut dire que c'est une crise, ce sont des crises qui sont sans cause humaine. Voilà, là il y a une espèce de Trump parle de un virus cruel qui vient d'un pays lointain, bon c'est quelque chose qui... Et ça je crois que c'est une grande différence avec évidemment la crise de 29 ou même la crise de 2008 où on a essayé de trouver des coupables, de revenir sur des éléments très spéculatifs, sur un système qui s'était enrayé. Et donc il est difficile à la fois pour les opiacés et à la fois pour la crise de la Covid aujourd'hui, qui sont des crises sanitaires extrêmement graves pour lesquelles on a beaucoup de mal en fait à mettre en place des mesures qui feraient mouche. Et d'une part parce qu'on n'a pas vraiment d'horizon, la crise des opiacés elle est en cours, elle continue alors qu'on est en train de parler, la crise sanitaire liée à la Covid également. Donc on est à la fois dans des choses, trouver des solutions à très court terme, dans une situation où on ne sait pas quel est le terme à échéance. Et la solution qui est apportée dans les deux cas, je crois que ça met en avant... une grande spécificité américaine, en tout cas états-unienne, qui est d'une part un modèle de consommation très particulier, puisque les opiacés, la crise opiacée, elle est aussi due au fait qu'il est facile d'acheter dans des supermarchés aux États-Unis un certain nombre médicaments, sirops, etc., qui contiennent des opiacés, donc ils sont en vente libre, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus réglementé, par exemple, en France ou dans les pays européens. Donc cet accès libre-là qui est aussi très dangereux. Et puis, comme le soulignait dit Romain Huret, effectivement, aux États-Unis, si on perd son emploi, on perd son assurance maladie, eh bien, la solution qui est souvent adoptée, c'est une solution extrêmement dangereuse, mais parfois c'est la seule, c'est d'avoir recours à sa carte de crédit. C'est-à-dire, on n'a pas d'autre moyen que, voilà, se lancer dans une espèce de spirale sans fin qui peut conduire effectivement à la mort par d'autres moyens, c'est-à-dire l'endettement, le surendettement, pour pouvoir payer effectivement les frais hospitaliers, les frais les frais médicaux, voilà.
Sur le plan de relance, Christine Zumelo.
Voilà. Donc sur les plans de relance, sur le plan de relance, le seul qui existe actuellement, qui s'appelle CAES, soins. On se demande si on est en train de mettre un pansement sur une jambe de bois, hein, pour utiliser une expression extrêmement familière.
2200 milliards, c'est un pansement qui coûte cher quand même. Hein.
Parce que on n'est pas certain que, en fait, les mesures qui ont été décidées atteignent leur but, puisque d'une part, comme je le rappelais en début d'émission, les aides individuelles sont soumises à une sorte de séquestration, de siphonnage par toute une série de sociétés qui guettent, en fait, et qui font en sorte que peut-être certains Américains ne toucheront jamais ces aides. Et deuxièmement, il y a un système, une espèce d'encastrement du système fédéral. Donc c'est des aides fédérales qui transitent en fait par les États. Et vous savez qu'aux États-Unis, les États fédérés ont obligation d'avoir un budget en équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État fédéral. Donc les États aussi peuvent être un peu parcimonieux dans la façon dont ils vont distribuer, dont ils vont organiser la distribution de ces aides. Donc en fait, il y a des difficultés, je dirais, logistiques qui rendent ces aides effectivement adoptées, effectivement votées, peut-être plus difficiles à aboutir.
Est-ce que le plan de 3000 milliards de dollars, ce projet qu'on a baptisé Loi pour les héros, est-ce qu'il va aller au bout? Parce que j'ai l'impression que notamment les sénateurs ne veulent pas en entendre parler. En tout cas, une majorité de sénateurs ne veulent pas en entendre parler. Est-ce que vous pensez que ce plan d'aide-là ne verra jamais le jour?
C'est la question fondamentale que vous posez. Les sénateurs, et en particulier le chef de file des sénateurs républicains, Mitch McConnell, a expliqué qu'il était assez hostile, pour ne pas dire carrément totalement hostile à cette mesure. Et donc, il paraît peu probable, étant donné la majorité républicaine au Sénat, que ce plan soit adopté, sauf s'il y a des défections, sauf si la situation encore s'aggrave. Voilà, donc il y a vraiment des très très grandes interrogations sur la viabilité de ces plans. Ce plan, d'ailleurs, qui a été lui-même refusé par un certain nombre de démocrates à la Chambre même. Hein. Mmh. Donc c'est pas un plan qui fait complètement l'unanimité, même s'il paraît éthiquement, humainement, quelque chose d'extrêmement souhaitable.
Oui, on a une difficulté au-delà du clivage conservateur-démocrate. Romain Huret, peut-être une réaction sur ces mesures déjà prises et celles qu'on a du mal à faire advenir.
Moi, ce qui est le plus choquant à nouveau, c'est l'absence de mesures de en profondeur, hein, pour essayer de résorber la double crise sanitaire en cours. Hein. Le traitement des opiacés avait été absolument caricatural, hein, puisque Trump avait accusé les Mexicains d'être responsables de la consommation de drogue et avait adopté des solutions qui sont de l'aveu de tous les médecins bien peu efficaces, hein, pour mener la lutte contre la drogue et la consommation d'opiacés. Donc je crois que là il y a restaurer un état social, le restaurer en collaboration avec les États, avec les comtés, avec les travailleurs sociaux, avec les médecins, et c'est tout un travail de fond à mon avis qui devrait être mené, hein, pour remettre sur les rails une partie de la société américaine qui est, je le répète, hein, qui est dans une situation tout à fait dramatique. Hein. Le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, hein, qu'on peut pas difficilement taxer d'anti-américanisme, avait après l'élection de Trump, et il a fait le tour des États-Unis, il avait été complètement frappé, horrifié, hein, par l'ampleur de la crise sanitaire dont Christine Zumelo et moi-même parlons. Hein. C'est-à-dire, c'est pas ces chiffres-là, ils sont visibles, on voit dans beaucoup de petites villes aux États-Unis, on voit des junkies, on voit des drogués, on voit des gens qui traînent dans les rues sans aucun avenir, des jeunes, des moins jeunes. C'est une situation tout à fait dramatique, hein, et complètement exceptionnelle. On regarde de l'enrichissement du pays, de la richesse du pays, et donc on voit un vrai plan de relance hein, passerait, je crois, par une refondation en profondeur de la démocratie états-unienne.
Sauf que vous n'y croyez pas. C'est souhaitable, mais vous n'y croyez pas.
Bah, pour l'instant, rien ne prend la forme d'une réflexion. L'élection précédente avait évité soigneusement le sujet. J'espère que là, elle sera sur le devant de la table, hein, que Joe Biden en parlera, que on évoquera les inégalités, la question de la pauvreté, la question des difficultés sanitaires, la question de la couverture de santé, la protection des Américains. Mais je dois avouer que je suis assez sceptique sur la possibilité que non seulement ça devienne un objet de débat fondamental et qu'ensuite des mesures soient adaptées au Congrès.
Pour quelle raison vous y croyez pas, puisque c'est si urgent?
Je pense que il y a une certaine forme de fuite en avant, c'est-à-dire on voit très bien chez Trump, il y a l'idée, c'est là où je parlais d'idéologie au départ, hein, c'est-à-dire l'idée que le système économique américain de toute façon est une promesse de bonheur et que le bonheur va arriver. Et beaucoup depuis 30-40 ans, hein, les conservateurs au pouvoir ont vendu cette idée que la libéralisation du marché, la dérégulation du marché. Aller créer un monde meilleur, aller créer de l'enrichissement et aller créer une société parfaite, hein, le meilleur des mondes. Le problème, c'est qu'on est bien bien loin du meilleur des mondes et il y a une certaine forme de fuite en avant. Puisque qu'est-ce que fait Trump ? Il renforce au contraire le mal, hein, puisqu'il demande au système économique de repartir encore plus vite, alors qu'on voit bien là à quel point la société est grippée, à quel point les effets sont catastrophiques. Hein, la Covid agissant comme partout, hein, comme un formidable surligneur de toutes les inégalités, de toutes les difficultés sanitaires, économiques du pays. Et là, sans doute, où il faudrait remettre à plat des réflexions sur la distribution des richesses, sur la protection des Américains, les filets de sécurité, etc. On voit au contraire la mise en avant d'une marche en avant terrible, hein, avec des individus qui demandent même à déconfiner plus vite que possible, hein, qui s'opposent à leurs élus pour déconfiner, des Trump les encourageant à protester contre les mesures de protection des individus. C'est tout à fait quand même étonnant.
Oui, c'était assez étonnant de voir effectivement ces manifestations un peu partout dans le pays et Trump qui encourageait ces manifestations anti-confinement, mais on voit qu'évidemment il y avait là une démarche politicienne. Il s'adressait directement à ses électeurs, Donald Trump. Il y avait là de toute évidence une instrumentalisation de la chose, c'était clair.
Oui, mais je pense qu'elle est politicienne, mais elle est aussi liée à l'idée que de toute façon le système est bon, le système fonctionne, ouais. Il faut surtout pas l'arrêter. Et c'est là où il y a une sorte de fuite en avant. Tous les indicateurs sont là. Les inégalités sont mises en avant régulièrement aux États-Unis, et on sent bien que de toute façon la fuite en avant est telle que le système, chacun souhaite qu'il reparte. On a vu ces manifestants, on a vu les plages en Floride qui ont donné des boutons à tous les médecins de la terre avec ces plages ouvertes en pleine épidémie de la Covid.
Mais alors, justement, Christine Zumello, parce que Romain Huret rappelle, et il a raison, la catastrophe sociale qui en fait se joue aux États-Unis depuis très longtemps, ces chiffres des inégalités sociales qui sont catastrophiques, mais d'aucuns vous opposeraient les excellents indicateurs économiques précisément de Donald Trump avant, bien sûr, la crise de la Covid. Un chômage sous la barre des 4%, une croissance économique qui était quand même soutenue, c'était, disait-on, l'une des grandes réussites de Donald Trump. Là, avec cette crise, il va y avoir évidemment quand même des difficultés au moins économiques et sociales fortes, pour pas dire une crise qui va durer plusieurs années. Est-ce que vous pensez que cet effondrement économique et social hypothèque la réélection de Donald Trump en novembre prochain?
Alors, je crois que c'est peut-être un peu encore trop tôt pour le dire, puisque je crois qu'on n'a vraiment pas encore mesuré l'impact et les conséquences de la crise économique, sociale et politique que crée la Covid. Et je crois que ce que vous dites n'est absolument pas contradictoire. On a à la fois un système où Trump explique que tout repose sur l'économie, donc economy first, mais ça veut dire aussi que c'est marche ou crève. C'est-à-dire, certes, on peut être extrêmement choqué de voir qu'un certain nombre de personnes manifestent pour que les États rouvrent, que toutes les entreprises rouvrent, que tous les business puissent réouvrir, mais il en va de leur survie d'une certaine manière, puisque on le rappelait, Romain Hurel le rappelait aussi, sans emploi, pas de sécurité sociale, pas de salaire, et on a les derniers chiffres donnent qu'à peu près 40% des Américains on dispose en gros, vous voyez, de 3 mois de liquidité. Ça veut dire qu'ils peuvent vivre à peu près 3 mois sans avoir recours à des crédits. Donc c'est très 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 peu. Vous voyez, et là il y a déjà, on entame le 3e mois de confinement, donc éventuellement de salaire. Les allocations chômage aux États-Unis n'ont rien à voir avec ce qu'on peut connaître en France. Donc il y a vraiment effectivement une fuite en avant aussi pour échapper au gouffre. Et là je crois que c'est vraiment quelque chose qui, je crois, fait extrêmement peur à Donald Trump, puisqu'il a effectivement basé toute sa campagne électorale en 2016 sur des attaques très frontales contre Hillary Clinton, mais aussi sur le fait de dire « moi je suis un homme pragmatique, hors des idéologies », alors qu'on voit très bien qu'il a cette espèce d'idéologie qu'il ne veut pas s'avouer, qui est celle de l'économie, qui est celle des affaires, qui de toute façon, il y a toujours une solution. Ça, c'est son grand cheval de bataille. Et effectivement, si les résultats économiques sont ce qu'ils sont aujourd'hui et se poursuivent, il aura beaucoup de mal à expliquer que... Ouais. Mais il se défausse également de toute la responsabilité, s'il n'y est pour rien. Voilà. Donc, puisqu'il n'y a absolument aucune interrogation sur la structure de l'économie américaine. Ouais. Il se réclame de la Fed aujourd'hui, il en appelle à la Fed, à la Banque centrale américaine, alors qu'il l'a jusqu'à très très récemment beaucoup critiqué, et en particulier aussi son directeur.
Romain Huret, même question, et puis ensuite on retrouvera un nouvel invité pour justement continuer à essayer de comprendre, mesurer les impacts économiques de la Covid sur l'économie américaine et notamment sur le secteur pétrolier. On va accueillir dans un instant Jean-François Boitin, mais et pour aller un peu plus loin sur les conséquences politiques, je demandais si Trump, quelles étaient les chances de Trump, est-ce que cette crise hypothèque sa réélection ou pas. On pourrait s'interroger sur le candidat qui a priori devrait l'affronter, Joe Biden. Est-ce qu'il est le bon candidat pour battre Donald Trump en novembre prochain, Romain Huret, vous y croyez?
De toute façon, c'est le candidat, donc il va falloir faire avec dans les mois à venir. La difficulté, je pense, pour Biden est évidente, hein, c'est-à-dire comment exister en ce moment, hein, dans un moment de suspension de la vie démocratique traditionnelle. On est à 6 mois d'élection, donc on est dans une situation tout à fait inédite aux États-Unis aussi, où l'élection présidentielle est mise entre parenthèses, hein, et pourrait l'être encore plusieurs mois, et si j'en juge par les prévisions des médecins, on risque d'avoir une campagne étouffée, hein. Et donc comment est-ce qu'il va pouvoir exister face au rouleau compresseur Trump, ça va être difficile. Ensuite, on sait très bien que Biden est un modéré, hein. Il y avait d'autres alternatives plus révolutionnaires, hein. Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, hein, qui comme vos auditeurs le savent, n'ont pas passé la barre des primaires démocrates. Donc à nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas certain que le débat s'oriente véritablement vers une remise en question, hein, d'un certain nombre de présupposés sociaux et politiques aux États-Unis, alors que peut-être une opposition avec Elizabeth Warren ou Bernie Sanders aurait donné davantage une élection clivante, hein, entre deux propositions tout à fait différentes pour les États-Unis, et l'une prenant davantage en compte les difficultés sanitaires, économiques et sociales du pays.
On est avec vous, Romain Huret, et vous, Christine Zumello, dans cette série « Les sociétés face à la pandémie ». 4 études de cas, et ce matin, on parle des États-Unis. On va s'intéresser en particulier à la politique pétrolière de Trump et à ce secteur pétrolier face à l'épreuve de cette crise du coronavirus.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisqu'un des secteurs particulièrement atteints par cette crise, c'est évidemment l'industrie du pétrole, avec un prix du baril qui est même passé sous la barre des 0 $. On va essayer de comprendre comment cette industrie, qui avait réussi à faire des États-Unis le premier producteur de pétrole au monde, va pouvoir surmonter la crise, les conséquences économiques et aussi politiques qui sont à attendre. On va retrouver depuis Washington Jean-François Boitin. Bonjour Jean-François Boitin.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, en particulier parce que vous êtes réveillé très tôt. Vous êtes chercheur associé à l'IFRI et au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Alors, on va pas revenir ensemble sur cette histoire du prix du baril qui est passé sous la barre des 0 $ pour comprendre très rapidement En gros, il y a eu un moment où ça coûtait plus cher de stocker le pétrole que de le brader, donc ça a expliqué ce prix particulier. Mais si on regarde l'impact un peu général, et puis on va détailler Jean-François Boitin, on a aujourd'hui un prix du Brent qui est aux alentours de 30 dollars. Est-ce que c'est suffisant pour sauver cette industrie américaine du pétrole? Et déjà aujourd'hui, quel bilan est-ce qu'on peut faire des conséquences de cette crise qui est quand même historique sur le secteur?
Alors, ce prix du Brent à 30 dollars, effectivement, c'est une amélioration par rapport aux dernières semaines. Mais le prix qui compte ici, c'est ce qu'on appelle le prix du WTI, le West Texas Intermediate. C'est à peu près 5 dollars de moins que le Brent. Et c'est insuffisant pour l'industrie pétrolière américaine et pour l'industrie du fracking qui est la technique qui a permis aux États-Unis en 10 ans de redevenir à la première place de la production de pétrole et de gaz d'hydrocarbures en fait dans le monde, puisque on est passé de 5,4 millions de barils par jour en janvier 2010 à 12,8 millions de barils par jour de pétrole en décembre 2019. Et évidemment, ces chiffres sont en train d'être revus très fortement à la baisse. Avec des estimations qui sont frappantes si vous regardez les rapports à court terme qui sont publiés tous les mois par le département de l'énergie américain, Energy Information Agency, puisqu'on attend maintenant sur 2 ans une baisse de 20% de la production de pétrole à travers les États-Unis. Et c'est une baisse qui frappe particulièrement les grands bassins producteurs sur le Texas et le Nouveau-Mexique, dans le Dakota du Nord, et en ce qui concerne le gaz, la Pennsylvanie et le bassin qu'on appelle le Marcellus. Et alors, chez le gaz.
Les conséquences, Jean-François Boitin, économiques et sociales, je crois que le secteur, c'est à peu près 250 000 emplois qui dépendent de l'exploitation du pétrole. Est-ce qu'on a une idée des emplois déjà détruits et encore à détruire dans les mois qui viennent? Est-ce qu'on a une idée du nombre d'entreprises? Parce que là aussi, il y a beaucoup de petites entreprises en réalité pétrolières qui sont en grande difficulté. Il y a un certain nombre de rapports qui sont sortis récemment, qui, selon les scénarios, nous dit si on a un prix du baril à 20 dollars, on va avoir 500 entreprises qui vont faire faillite. Si on a un prix à 10 dollars le baril, on a plus d'un millier d'entreprises qui vont déposer le bilan. C'est quoi le paysage, Jean-François Boitin, aujourd'hui, et les craintes du secteur?
La crainte du secteur, c'est qu'il faut bien voir que l'épidémie, la Covid, arrive à un moment où, de toute façon, le secteur était déjà dans une situation de fragilité. Parce que il y avait un problème structurel de rentabilité financière du secteur. À la fin de l'année dernière, en décembre, on disait déjà, tous les spécialistes du secteur disaient que les banques qui ont financé toutes ces entreprises allaient commencer à réduire le montant des prêts fait aux acteurs du secteur d'au moins 10 ou 20%. Et donc toutes ces entreprises allaient être obligées de réduire leurs investissements parce que fondamentalement elles n'étaient pas rentables, aussi rentables qu'elles l'espéraient et qu'elles le disaient. C'est-à-dire que les puits en fait ne produisaient pas autant que ce qui était annoncé. Donc il y avait du côté du monde de la finance, de Wall Street, des banques, une espèce de désamour du secteur pétrolier. Alors évidemment, la crise a ajouté à cette perception négative du secteur. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un certain nombre de faillites déjà, des annonces de danger sur des grands acteurs du secteur aussi, des figures un petit peu emblématiques de ce monde, et puis des annonces de coupes budgétaires, évidemment coupes de personnel, de la part des grandes entreprises de services comme Schlumberger, comme Halliburton, qui annoncent des coupes de 30% de leur budget d'investissement. Et ce qu'il faut voir, bien sûr, c'est que au-delà des pertes dans le secteur proprement dit, Texas, par exemple, on a aujourd'hui une perte de 65 et 70 000 emplois déjà enregistrés. Mais il y a tout autour de cette activité d'exploration et de production une vie de service qui est très très active. On peut penser au Far West, on peut penser à la ruée vers l'or, où tout le monde sait qu'il y a un certain nombre de prospecteurs qui ont fait fortune, mais que ceux qui ont fait fortune surtout, c'est les gens qui fournissaient les pelles, les pioches et les brouettes pour transporter la terre dans les mines. C'est ce qui se passe aussi avec le fracking à travers les États-Unis, que ce soit donc au Texas, Dakota ou en Pennsylvanie. Et ça a un impact très fort, en fait, sur toute cette activité économique qui est liée aux activités, donc dans le service, dans le dans la restauration, dans le dans les espèces de, enfin, pensez à Lucky Luke, c'est ça.
Oui, on voit bien, l'image est parfaitement claire. Jean-François Sabatin, vous restez avec nous, mais je voudrais faire réagir nos invités Romain Huret et Christine Zumello. Peut-être avec vous d'abord, Christine Zumello, si vous le permettez, parce que il y a quelque chose que j'entends dans le discours de Jean-François Boitin, c'est que on a un secteur qui, en réalité, était déjà en difficulté, où les niveaux d'endettement étaient très forts, et on a aujourd'hui des services bancaires, des banques qui, visiblement, sont beaucoup moins enclines à financer, justement, ce secteur-là. Mais si on regarde aussi les choses, si on est endetté, ça veut dire qu'on a encore des choses à rembourser. Et si on regarde un tout petit peu ce que ça représente, j'ai regardé sur la période 2020-2024, on parle de 84 milliards de dollars de dettes qui arrivent à échéance sur cette période-là. Est-ce qu'on peut imaginer, donc évidemment, des remboursements qui potentiellement pourraient ne pas se faire en réalité? Est-ce qu'on a potentiellement derrière une crise bancaire qui couve là? Qui viendrait du secteur pétrolier?
Effectivement, c'est une question qui se pose et qui nous ramène à ce que je disais en début d'émission sur l'économie de la dette aux États-Unis, quel que soit le secteur. Donc effectivement, c'est une question fondamentale. Le secteur du pétrole aujourd'hui qui est aussi mis à genoux par très très faible consommation de les déplacements très limités par des voitures et de l'avion, donc le transport aérien aux États-Unis qui est absolument fondamental, qui est vraiment l'épine dorsale de tout le système de transport, donc une consommation qui a chuté de façon absolument radicale. Donc là aussi, je crois qu'il faut essayer peut-être de repenser. Alors, en temps normal, peut-être que la campagne d'élection présidentielle aurait été le temps de lancer ces réflexions. Mais qu'est-ce que ça veut dire que se déplacer aux États-Unis? Comment est-ce qu'on se déplace aux États-Unis? Le Texas, qui reste dans l'imaginaire populaire comme en effet l'état du pétrole, l'état des pétroliers, où en effet, en circulant au Texas, on voit des petits Derrick dans tous les ranchs et dans tous les champs. Effectivement, c'est un état dans lequel les grandes villes n'ont absolument aucune. C'est une constante aux États-Unis, mais encore plus criant au Texas, aucun transport en commun. Houston, Dallas, etc. Il n'y a vraiment aucun moyen de se déplacer autrement qu'en voiture.
Romain Huret, réaction?
Même chose, hein, je pense que il serait nécessaire de réfléchir à une vraie politique énergétique dans les années à venir, à une politique ferroviaire et à relancer d'autres moyens de transport dans le pays. Mais je suis comme ma collègue, je suis assez pessimiste sur la capacité de la prochaine élection à mettre tout cela sur la table. Là.
Oui, et puis sur l'actuelle administration, il y a aussi quelques inquiétudes à avoir, puisque Trump, lui, a envie plutôt de soutenir le secteur. On sait évidemment que c'est un secteur très important et qui, politiquement, est important pour sa réélection.
Absolument.
Merci infiniment en tout cas Jean-François Boitin d'avoir été ce matin avec nous depuis Washington, et je vous remercie doublement parce qu'une fois encore vous étiez en direct et qu'il est quand même assez tôt du côté de Washington, donc on vous rend à Morphée, vous pouvez peut-être vous reposer à nouveau avant de faire votre journée. Un grand merci, je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'EFRI et au CEPI. Après le secteur pétrolier, on va s'intéresser au monde de l'action sociale aux États-Unis.
Nous devons nous mobiliser et comprendre la dimension intersectionnelle du virus qui frappe les communautés noires et latino qui ont peu de revenus. Alors, mobilisons-nous et sortons-nous de là. Nous pouvons changer les choses maintenant. Nous pouvons éviter la panique, nous pouvons éviter que la peur entre dans nos communautés en créant une communauté de sécurité et de sûreté. Vous pouvez vous mobiliser avec nous en faisant des dons par téléphone et n'hésitez pas à donner lors de nos campagnes pour la distribution de colis alimentaires partout dans la ville et dans le quartier.
Voilà, cette voix qu'on vient d'entendre, c'est celle d'Alexandria Ocasio-Cortez, jeune élue démocrate de New York qui se met en scène sur son compte Instagram en distribuant de la nourriture aux habitants des quartiers. On va retrouver tout de suite le correspondant aux États-Unis pour Mediapart, Mathieu Magnodex. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste et vous venez de signer un ouvrage qu'on peut trouver, ça y est, en librairie. Génération Ocasio-Cortez, les nouveaux activistes américains aux éditions La Découverte. Alors, évidemment, les détracteurs de la jeune élue démocrate, et ils sont nombreux, diront qu'elle en fait trop et que les colis qu'elle livre sont là essentiellement pour servir sa communication politique. Sauf que il y a quand même derrière tout ça une réelle action, une réelle ambition d'Alexandria Ocasio-Cortez d'organiser un réseau d'entraide et de distribution de repas dans sa circonscription. Donc il y a vraiment des actions sociales très importantes qui se déploient aujourd'hui à New York. C'est pas seulement de la communication politique.
Oui, tout à fait. Ce qu'il faut voir avec un personnage comme Alexandria Ocasio-Cortez, donc il y a 30 ans, qui est une très jeune élue, arrivée à la politique un peu par surprise, puisque en 2018, elle a battu une figure du Parti démocrate lors d'une primaire à New York et est devenue finalement le nouveau visage de la gauche américaine en quelques mois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle a, même dans les pires moments, les moments les plus difficiles, toujours une stratégie politique et toujours une lecture politique des choses. C'est-à-dire que en ce moment, elle se dit qu'il faut évidemment venir en aide aux communautés les plus impactées par le virus, qui se trouvaient d'ailleurs ses électeurs, sa circonscription dans le Queens à New York, qui est une des circonscriptions les plus touchées aux États-Unis par le Covid, avec beaucoup de latinos notamment, pauvres immigrés qui sont victimes du Covid parce qu'ils sont travailleurs essentiels, parce qu'ils ont des conditions sanitaires moins bonnes que les autres. Et donc elle ne se contente pas de, en effet, faire des colis, donner une partie de l'argent de sa campagne à la solidarité, à l'entraide. Elle politise toujours les choses en disant, regardez justement ce qui est en train de se passer, c'est aussi le résultat de l'inégalité de notre système sanitaire, de notre système social, et donc elle politise toujours les choses.
On reviendra évidemment sur le volet politique, mais si on reste un instant sur le terrain, Mathieu Magnodex, dans votre livre, Génération Ocasio-Cortez, vous dressez le portrait d'un certain nombre de jeunes activistes américains. Alors il y a par exemple Raphaël Shimonov, que vous retrouvez à l'aéroport JFK à New York, qui est en train de manifester contre l'expulsion de réfugiés. Il y a Tara Raghuvir, qui a étudié, elle, à Harvard, mais qui a été rattrapée à la fois par ses origines modestes, mais aussi sa couleur de peau foncée qui l'ont poussé à s'engager politiquement après la victoire de Trump. Aujourd'hui, ils font quoi, ces gens? Comment est-ce qu'ils s'engagent dans cette crise globale qui découle de la Covid-19?
Il faut comprendre que ces gens sont des organisateurs. Donc, ils s'appellent des organizers, des organisateurs, c'est-à-dire c'est des gens qui dont le quotidien est fait au sein d'organisations, parfois qui sont plus de grandes organisations et parfois des organisations petites. L'organisation de Tara Raghuvir à Kansas City, elle l'a créée il y a un an et elle a organisé tous les locataires de certains quartiers populaires qui luttaient contre les expulsions au sein de leur communauté. Il faut comprendre que tous ces gens, leur ADN, c'est d'organiser, de mettre ensemble les gens collectivement, essayer de les faire se rencontrer, essayer de les faire partager leurs histoires pour qu'ils découvrent finalement leurs points communs et qu'ensemble, ils mettent en scène et ils organisent des campagnes avec des revendications très claires pour obtenir des choses précises. Donc il y a un sens stratégique très fort. Mais en effet, l'ADN, c'est l'organisation. Et dans cette crise, finalement, ben, ils font la même chose. C'est-à-dire que Raphaël Shimonov, il participe à l'entraide, lui aussi, dans le Queens à New York, et il participe à des actions de solidarité, et il essaye de créer du lien dans une période extrêmement difficile. Tara Raghuvir, elle a participé, comme beaucoup d'autres activistes dans plein de villes aux États-Unis, donc dans sa ville de Kansas City, dans le Missouri, au centre du pays, elle a participé à une grande grève des loyers, pour mobiliser dans sa ville qui était jusqu'à il y a un an, jusqu'à ce qu'elle arrive en fait, elle a repolitisé une partie de cette ville, elle a redonné de l'énergie au milieu militant dans cette ville. Et donc, ils font la même chose. En fait, ils continuent de faire la même chose en continuant de rêver finalement à un monde meilleur. Et finalement, ils se disent dans cette crise, on va faire ce qu'on sait faire, la même chose, mettre les gens en relation et les organiser.
Et glissons justement du terrain aux politiques. Parmi les actions que vous évoquiez, il y a effectivement dans plusieurs villes, et dont New York, des locataires qui ont lancé des grandes grèves des loyers, qui se retrouvent évidemment dans l'incapacité de payer après avoir perdu leur emploi. Est-ce que ça pourrait trouver une transformation politique? Je sais que, en particulier, Alexandria Ocasio-Cortez soutient une proposition de loi qui vise à annuler les loyers, alors sous certaines conditions évidemment, mais au niveau national, également la suspension de certains remboursements de prêts. Est-ce que vous pensez qu'une telle loi pourrait être votée?
Ce qui est fascinant à voir aux États-Unis, qu'il faut regarder, je pense, de près, c'est que les choses sont en train de changer très vite en ce moment aux États-Unis. Vous avez, par exemple, pour prendre un seul exemple, et je ne parle pas même de la gestion catastrophique par Trump de la pandémie qui finalement obscurcit un peu tout parce qu'on est concentré sur ça. Mais il se passe d'autres choses très intéressantes en même temps. Par exemple, prenez le candidat démocrate Joe Biden, qui a été le choix finalement des électeurs démocrates, même si ce n'est pas complètement acté aujourd'hui. Mais il sera, selon toute évidence, le candidat face à Trump en novembre. Il a, y compris au cours des dernières semaines, montré un certain nombre de signes politiques, pour répondre à l'urgence sociale énorme. 36 millions de chômeurs aux États-Unis depuis le début mars. C'est tout à fait insensé. Ça n'est jamais arrivé depuis la Grande Dépression. Et donc, par exemple, pour donner un autre exemple, Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres, certains des activistes même dont je parle dans le livre, comme Varshini Prakash, par exemple, qui est la fondatrice du mouvement Sunrise, un mouvement de jeunes activistes pour l'environnement, ont intégré des cellules, des groupes de travail avec la campagne de Joe Biden pour gauchir un peu le programme de Joe Biden. Pas juste pour le gauchir parce qu'il faudrait le gauchir, mais juste pour le gauchir parce que pour répondre aux attentes de la société américaine en ce moment et aux attentes d'une grande partie de la jeunesse américaine, de la jeunesse en tout cas progressiste, qui s'est retrouvée dans la campagne de Bernie Sanders. Ça n'a pas marché, ça n'a pas été jusqu'au bout, parce que les électeurs plus âgés n'ont pas voulu cette solution, mais la jeunesse est vraiment intéressée par ces solutions. Et donc, si Joe Biden veut gagner la présidentielle face à Donald Trump le 3 novembre, il doit avoir aussi beaucoup plus d'électeurs jeunes, il doit les énergiser, et pour ça, ses organisateurs, ses activistes ont les méthodes et savent faire.
Oui, mais alors là, vous partez de l'hypothèse selon laquelle il y aurait une gauchisation globale du Parti démocrate. Or, rien n'est plus sûr. Et précisément, si Joe Biden est celui qui affrontera Trump, c'est aussi le signe que finalement, les partisans, en tout cas les Américains qui se retrouvent plutôt dans le Parti démocrate, sont plus au centre qu'à gauche. Sinon, c'est Bernie Sanders qui serait en position pour aller éventuellement peut-être battre Donald Trump. Or, c'est pas le cas. Alors, j'entends bien cette idée selon laquelle tout ce monde social essaierait de gauchiser cette campagne de Biden. Mais est-ce que réellement Biden est prêt à incorporer des propositions plus sociales dans son programme, ou c'est juste le temps de la crise et finalement, quand il sera élu, s'il est élu, il reviendra au centre, puisque c'est là que sont
bien
les électeurs?
On verra. Ce qui se passe, c'est que le Joe Biden d'aujourd'hui n'a rien à voir, par exemple, avec le Joe Biden d'il y a quelques mois et le Joe Biden encore moins d'il y a 4 ans. C'est-à-dire que, en gros, en 3-4 ans, depuis l'émergence, la réémergence politique, on va dire, de Bernie Sanders en 2015-2016 face à Hillary Clinton, une partie du pays, reste à mesurer en effet quelle partie du pays, mais une partie quand même importante du pays, c'est éveillé politiquement et a compris que le système américain, que la société américaine, la politique américaine n'était pas en mesure de leur offrir les promesses qui étaient dans les promesses du rêve américain ou ce genre de choses. Donc il y a tout un récit comme ça qui s'est effondré, et donc il y a une prise de conscience, un réveil politique extrêmement important. Donc en effet, l'échec de la deuxième campagne de Bernie Sanders montre que ce n'est pas encore mûr, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une maturation politique à toute vitesse, progressiste, dans une partie de la société américaine, ce qui n'empêche pas que par ailleurs, il reste énormément d'indifférents et par ailleurs, énormément de gens qui voteront le 3 novembre sans problème, pour Donald Trump parce qu'ils sont des républicains et qu'ils veulent que les choses continuent ainsi, bien sûr.
Et c'est vrai qu'on peut raisonnablement penser que cette crise économique et sociale qui est en train de se profiler, qui est même bel et bien là, va renforcer cette aile gauche démocrate. Merci beaucoup Mathieu Magnodex d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes correspondant aux États-Unis pour Mediapart et que vous signez Génération Ocasio-Cortez, les nouveaux activistes américains parus aux éditions La Découverte et qui vient de paraître là ce mois-ci. Merci infiniment à vous. Romain Huret, est-ce que cette poussée du progressisme peut être suffisante pour espérer une victoire de Biden face à Donald Trump à la fin de l'année ?
Je vais pas faire de prévision, mais ce que je peux dire en tant qu'historien, c'est le parallèle avec l'arrivée de Roosevelt au pouvoir après la crise de 29. Hein. Dans les années 20, on avait eu aussi une multitude d'initiatives locales, hein, de syndicales, politiques, dans les États, dans les comtés, dans les villes américaines. Et 12 ans plus tard, cette coalition avait donné lieu à la victoire de Roosevelt. Donc on a peut-être là, de manière invisible, de manière disparate, de manière incompréhensible, hein, toute une série d'initiatives locales, de coalitions politiques, de coalitions intersectionnelles, comme on vient de nous les présenter, qui pourraient donner naissance, peut-être avec Biden, peut-être dans 4 ans, avec un autre candidat, une autre candidate, à une nouvelle coalition politique, hein, qui permettrait l'arrivée d'une nouvelle génération progressiste à la Maison-Blanche.
Merci beaucoup, en tout cas, Romain Huret, d'avoir été avec nous, et Christine Zumello, qui est avec nous également depuis le début de cette émission. Un grand merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur cet autre horizon du Covid que sont les États-Unis. On poursuivra demain, nous parlerons de la Russie, et puis ensuite de l'Inde. Ça sera pour les autres jours de Culture Monde en mode déconfiné. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.